Bonjour le monde aujourd'hui, merci d'écouter VOA Afrique, Eric Manila qui est avec vous. Bienvenue dans cette édition du vendredi 29 mars 2024. Voici d'abord les principaux titres. Au Sénégal, la prise du pouvoir approche pour l'opposant anti-système Diomaye Faye, tandis que les attentes des citoyens à son égard sont très fortes.
On n'a pas de travail, on a faim, on a pratiquement rien du tout en fait. Même pour sortir de ce pays, c'est difficile. Beaucoup sont là, ils ont du travail, mais pas par mérite quoi. Je crois qu'avec Diomaye, tout va changer en fait. Voilà.
Au Togo, un journaliste est en prison après un article sur la mort d'un proche du président Gnassingbé. Afflux de réfugiés nigérians à Maradi dans le sud du Niger. Appel à l'action urgente pour la crise humanitaire en Ituri où plus d'un million et demi de personnes sont de déplacés internes.
La situation humanitaire est assez alarmante et même catastrophique au regard du nombre de déplacés internes dans la région, les attaques qui se poursuivent contre les camps de déplacés internes.
En Afrique du Sud, un bus chute d'un pont et fait au moins 45 morts. La Cour internationale de justice ordonne à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence à Gaza. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant le journal. La présidence sénégalaise a publié hier jeudi des photos d'un nouveau moment hors du commun. L'accueil au palais présidentiel du président élu Bassirou Diomaye Faye par le sortant Macky Sall. Yacouba Ouédraogo.
Diomaye Faye était accompagné de son mentor Ousmane Sonko. Les photos montrent les trois hommes souriants en train de se saluer et M. Faye poser la main sur l'épaule de son futur prédécesseur. La présidence a parlé de rencontres empreintes de courtoisie au cours de laquelle M. Sall et Faye ont discuté en profondeur des grands dossiers de l'État ainsi que de la cérémonie de prestation des serments et de passation des services. C'est le début d'une transition politique significative, a-t-elle dit. Le président Sall a présidé mercredi ce que ses services ont qualifié comme son dernier conseil des ministres. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour préparer les dossiers de passation en vue de l'installation dans les meilleures conditions du nouveau président. Bassirou Diomaye Faye pourrait être proclamé définitivement vainqueur de la présidentielle d'ici à la fin de la semaine. L'organe chargé de proclamer les résultats finaux provisoires les a rendus publics mercredi. Au tour du Conseil constitutionnel maintenant d'examiner d'éventuels recours de candidats et de déclarer M. Faye définitivement vainqueur ou d'annuler l'élection, hypothèse hautement invraisemblable. Les adversaires de M. Faye ont reconnu sa victoire et aucun n'a jusqu'alors exprimé publiquement l'intention de soulever d'objection. Bassirou Diomaye Faye est le premier opposant à l'emporter dès le premier tour depuis l'indépendance en 1960. Jamais porté à une fonction élective nationale auparavant, il devrait devenir à 44 ans le cinquième et plus jeune président du Sénégal.
La commission électorale en Afrique du Sud a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse que Jacob Zuma, qui a dirigé le pays de 2009 à 2018, est exclu des élections générales prévues pour le 29 mai. John Lyndon.
Dans le cas de l'ancien président Zuma, nous avons reçu une objection qui a été retenue, a déclaré le président de la commission Mozoto Moepia, sans préciser les raisons motivant l'exclusion qui peut encore faire l'objet d'un appel d'ici le 2 avril. Les Sud-Africains sont appelés aux urnes dans 2 mois pour renouveler un parlement qui choisira ensuite le prochain président. Jacob Zuma, 81 ans, ancien pilier du Congrès national africain, parti au pouvoir depuis 30 ans, a créé la surprise en décembre en annonçant soutenir l'OMK, un petit parti radical récemment créé. Cette annonce a porté un coup à l'ANC qui, selon les enquêtes d'opinion, est en perte de vitesse après de multiples scandales de corruption et en raison d'un paysage socio-économique morose. Le parti pourrait pour la première fois perdre sa majorité parlementaire. Selon les derniers sondages, l'ANC remporterait un peu plus de 40% des voix en mai, contre quelques 27% pour le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique, et 13% pour l'OMK.
Un journaliste togolais a été écroué jeudi soir, visé par sept chefs d'inculpation, dont conception et publication de nouvelles fausses, afin de susciter la population ou l'armée à se soulever contre l'État, apologie contre la défense nationale et la sécurité de l'État, publication par voie de presse écrite d'un écrit ayant porté atteinte à l'honneur et à la dignité et à la considération du président de la République. Apollinaire Mewene Messé, directeur de publication du journal La Dépêche, âgé de 71 ans, était gardé à vue à la brigade de recherche et d'investigation à Lomé depuis mardi après son audition suite à un article publié le 28 février. Le gouvernement burkinabé a prolongé d'une année supplémentaire un décret de mobilisation générale permettant la réquisition des jeunes de 18 ans et plus pour lutter contre les djihadistes. Ce décret d'une durée d'un an, signé en avril par le capitaine Ibrahim Traoré, stipulait aussi que les droits et libertés individuels et collectifs garantis par les lois et règlements peuvent, dans certains cas, être restreints ou limités. Hier jeudi, 11 organisations de la société civile du Burkina Faso ont dénoncé des enlèvements récurrents et des arrestations arbitraires de citoyens par des individus vêtus de tenues civiles, cagoulés ou se présentant à visage découvert comme étant des éléments de force et de sécurité intérieure. Les organisations dont le Balai Citoyen ou encore Mouvement Burkinabé des Droits de l'Homme et des Peuples appellent le régime à libérer sans délai ni condition toute personne illégalement arrêtée et arbitrairement détenue au regard de la loi et à faire proscrire définitivement ses pratiques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour internationale de justice a ordonné à Israël hier d'assurer une aide humanitaire de toute urgence à la bande de Gaza où des combats opposent l'armée israélienne et le Hamas dans le secteur de plusieurs hôpitaux. Jacques Aristide.
Israël doit veiller sans délai à ce que soit assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence à Gaza, a déclaré la CIJ basée à La Haye. Saisie par l'Afrique du Sud, cette cour avait appelé en janvier l'État hébreu à empêcher tout acte éventuel de génocide dans le territoire palestinien, Israël jugeant scandaleuse de telles accusations. L'armée israélienne, qui accuse les combattants du Hamas de se cacher dans les hôpitaux, poursuit ses opérations dans le complexe hospitalier Al-Shifa, disant avoir éliminé environ 200 terroristes depuis la semaine dernière. Les troupes israéliennes ont évacué les civils, les patients et les équipes médicales vers des installations médicales alternatives, assure l'armée. Après les villes de Gaza et de Khan Younes, Israël veut entamer une offensive terrestre à Rafah, qu'il décrit comme le dernier grand bastion du Hamas. Les États-Unis redoutent le bilan humain d'une telle opération et préfèrent d'autres options.
Au moins 36 militaires syriens ont été tués dans une frappe israélienne qui a visé ce vendredi à l'aube la région d'Alep, dans le nord de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ici aux États-Unis, Sam Bankman-Fried, superstar déchu des crypto-monnaies, a été condamné jeudi à 25 ans de prison pour l'une des pires fraudes financières de l'histoire récente. Rosine Munezero.
Lors de l'audience devant un tribunal de New York jeudi, le juge fédéral Louis Kaplan n'a pas mâché ses mots, relevant que le jeune homme n'avait jamais eu un mot de remords pour avoir commis un crime terrible. Bankman-Fried a utilisé, sans leur accord, les avoirs des clients de sa plateforme d'échange de devises numériques FTX pour effectuer des transactions à risque via sa société sœur Alameda, pour acheter des biens immobiliers ou pour faire des donations politiques. De son côté, le trentenaire, qui a l'intention de faire appel, a présenté ses excuses, reconnaissant avoir pris une série de mauvaises décisions. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'on les a laissés tomber, et on les a laissés tomber, j'en suis désolé, a déclaré Sam Bankman-Fried. Soumise à des demandes massives de retrait venues de clients paniqués, FTX a implosé en novembre 2022. Au moment de son dépôt de bilan, environ 9 milliards de dollars manquaient à l'appel. Les liquidateurs du groupe ont déjà récupéré environ 6,4 milliards de dollars en numéraire et prévoient de rembourser intégralement les clients lésés. Sam Bankman-Fried avait déjà été reconnu coupable par un jury en novembre des 7 chefs d'accusation retenus contre lui lors d'un procès à l'issue duquel le procureur de New York, Damian Williams, avait réclamé entre 40 et 50 ans de réclusion.
La Russie a imposé hier jeudi la dissolution du système de surveillance et des sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord et son programme nucléaire. Un coup de force fustigé par les États-Unis et ses alliés, dénonçant la protection mutuelle entre les deux pays. La Corée du Nord est soumise depuis 2006 à des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU liées à son programme nucléaire, renforcé plusieurs fois en 2016 et 2017. La Russie a ainsi mis son veto jeudi à un projet de résolution prolongeant d'un an le mandat du comité d'experts chargé de surveiller l'application de ces mesures. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Michel Joseph.
Les gisements de brut de l'Angola ont décliné de 15%. Mais Luanda essaie de constituer des réserves tout en se lançant dans une campagne agressive pour attirer les investisseurs, a déclaré José Barroso, secrétaire d'État angolais au pétrole et au gaz. L'Angola veut aussi produire davantage de gaz naturel pour compenser une partie du déclin du pétrole. La Banque commerciale d'Éthiopie, une entreprise publique, a récupéré environ 78% des 14 millions de dollars qu'elle a perdus lorsqu'un problème logiciel dans la nuit du 15 mars a permis à ses clients de retirer plus de fonds que ceux qu'ils détenaient sur leur compte. Le prêteur a publié les noms de plus de 500 personnes qui n'ont pas encore restitué le solde, a déclaré le président de la banque, Abie Sano. Ici, aux États-Unis, la fermeture du port de Baltimore, devenue inaccessible pour une durée indéterminée depuis l'effondrement d'un pont autoroutier, percuté lundi par un porte-conteneur, devrait avoir un effet limité sur l'économie du pays grâce aux capacités actuelles des infrastructures portuaires de la côte Est. Le port de Baltimore génère près de 3,3 milliards de dollars en salaires, emploie directement environ 15 000 personnes et soutient indirectement près de 140 000 emplois. En 2023, ce port a géré entre autres 1,12 million de conteneurs et le plus de cargaisons de véhicules que tous les autres ports américains.
Et nous passons directement à votre page des sports avec Nanit Talani ce matin. Bonjour Nanit.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Interclub, la CAF a fixé les dates des finales.
Le successeur d'Al Ahly au palmarès de la Ligue des champions de la CAF sera connu le samedi 25 mai prochain, date de la finale retour. La CAF vient en effet de dévoiler les dates ce jeudi 28 mars. La finale aller aura lieu une semaine avant, le 18 mai. La Confédération africaine de football a aussi fixé les dates des finales de la Coupe CAF. Ce sera les 12 et 19 mai.
Parlons maintenant des JO 2024 basket. Les Nigérianes, seules africaines en lice, seront face à l'Australie pour leur premier match.
Selon le programme de la FIBA, le Nigeria, seule équipe africaine féminine en lice, affrontera pour son premier match l'Australie dans le groupe B le 29 juillet. Les Nigérianes en découdront ensuite avec la France le 1er août et le Canada le 4.
Et en déplacement pour un match de Premier League en Sierra Leone, le club Ports Authority FC a été victime d'un accident de la route qui a tué son coach, l'ancien international Lamine Bangoura, mort à 59 ans.
L'ancien international sierra-léonais Lamine Bangoura est décédé mardi soir à 59 ans après cet accident de la route dans le village de Kontalaine. L'équipe se rendait de la capitale Freetown à Kinema pour un match de Première Ligue de Sierra Leone. 6 joueurs ont également été blessés dans l'accident. Certains sont dans un état grave.
On termine avec le Grand Prix 3 200 mètres. Le Botswanais Letsile Tebogo signe la meilleure performance de la saison.
Il a réussi un temps de 19 secondes 94 devant le Sud-Africain Akani Simbine, 20 secondes 32. Tebogo signe le meilleur chrono de la saison sur la distance. Il devient d'ailleurs le premier athlète à courir le 200 mètres sous les 20 secondes de cette saison. Letile Tebogo détient aussi les meilleurs temps de la saison des 300 mètres et du 400 mètres.
Page des sports, signé Nani Totalani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakizade, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Des attentes envers l'opposant Bassirou Diomaye Faye, déclaré vainqueur dès le premier tour des élections présidentielles au Sénégal, le sont élevées, étant donné le contexte marqué par une augmentation du coût de la vie et des problèmes de gouvernance. Notre correspondante Alison Fernandez est partie à la rencontre de ces Sénégalais qui ont élu Bassirou Diomaye Faye.
Modou Diagne tient cette quincaillerie depuis presque 10 ans dans le quartier des Mamelles à Dakar. Mais pour ce père de famille, les conditions de vie ces dernières années sont devenues très difficiles. C'est pour cela que, comme plus de 54% des électeurs sénégalais, il a voté à la présidentielle pour le candidat de la rupture, Bassirou Diomaye Faye, une manière également pour lui de sanctionner le régime de Macky Sall. Vie chère, problème d'employabilité, casse-tête du logement. Pour certains étudiants rencontrés devant l'université Charenta Diop, voilà les défis auxquels devra rapidement s'attaquer le nouveau président. Rappelons qu'après les manifestations de juin 2023, les cours à l'UQAD ont été suspendus pendant 9 mois. Ils ont repris il y a quelques semaines à peine. Écoutons tour à tour Elidiata et Mariama Badji.
Il y avait tellement de problèmes ici. Oui, des perturbations à n'en pas finir. Des gens sont là depuis des années, ne parviennent pas à étudier correctement. Les anciens diplômés sont là, qu'ils ont des problèmes à retrouver de l'emploi.
On n'a pas de travail, on a faim, on a pratiquement rien du tout en fait. Même pour sortir de ce pays, c'est difficile. Beaucoup sont là, ils ont du travail, mais pas par mérite quoi. Je crois qu'avec Diomaye, tout va changer en fait. Voilà.
Tenant d'une ligne souverainiste, Bassirou Diomaye Faye a énoncé comme ses chantiers prioritaires la réconciliation nationale, la refondation des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie. Pendant sa campagne électorale, sa coalition a également dit soutenir l'idée d'une monnaie ouest-africaine régionale. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur l'élection présidentielle au Sénégal et la victoire reconnue dès le premier tour de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, décrit comme le plan B du charismatique Ousmane Sonko. Est-ce un véritable séisme politique qui vient de se produire dans ce pays, réputé pour sa stabilité en Afrique de l'Ouest? Quels sont les défis qui attendent celui qui va devenir le plus jeune chef de l'État sénégalais? Quel rôle pour son guide Sonko? En quoi leur fusion pour un panafricanisme de gauche pourrait-elle redéfinir les relations de Dakar avec ses partenaires internationaux? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Depuis le 26 mars, date prévue pour la fin officielle de la transition au Mali, la pression augmente sur les autorités militaires pour qu'elles élaborent rapidement un calendrier de sortie de cette période transitoire en réponse aux appels croissants émanant d'associations et de partis politiques. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Après le communiqué de la synergie d'action pour le Mali et le parti Adama PASJ, le Parti pour la Renaissance Nationale, PARENA, a aussi fait un communiqué pour rappeler la fin de la période transitoire et inviter les autorités à donner de nouvelles dates pour les élections. Alou Diabaté, porte-parole du président du PARENA.
Vous demandez aux autorités de la transition de créer un cadre politique apaisé pour de manière consensuelle pour fixer un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel, libérer les prisonniers d'opinion, permettre le retour des exilés politiques.
président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, Boubacar Boukoum, estime pour sa part que les conditions pour organiser une élection ne sont pas réunies.
Il est certain que les élections pour nous aujourd'hui ne sont pas une priorité. Dès lors que, effectivement, nous savons que notre pays traverse une situation très difficile, et sachant que les causes profondes de la crise sont foncièrement des raisons sécuritaires.
L'insécurité, le manque de concertation avec les partis politiques sont entre autres arguments avancés par le politologue Paul Oula pour expliquer cette situation.
Dans ces derniers mois, le Mali a procédé à des levées de fonds sur le marché de l'humain à des taux extrêmement élevés. Cela sous-entend que les conditions financières aujourd'hui sont très difficiles. La deuxième raison est que aujourd'hui, le gouvernement n'a pas quand même su réunir la classe politique pour essayer de fixer une date butoir concernant l'organisation des élections après le report inédit.
Les partis et organisations qui pressent les autorités d'organiser les élections mettent en avant la situation de vide juridique dans laquelle le pays est depuis le 26 mars. Une thèse confortée par le professeur Kissima Gakou, doyen de la faculté de droit privé de l'université de Bamako.
La situation du pays, chacun connaît, hein, c'est un régime d'exception, mais ça doit finir. Et puisque ça doit finir, les partis politiques sont tout à fait fondés aujourd'hui à donner de la voix dans le sens justement de clarifier la suite.
Ce jeudi, des organisations ont déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'elle constate un vide institutionnel au Mali. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le Conseil norvégien pour les réfugiés appelle la communauté internationale à agir de manière urgente pour soutenir les plus de 1,5 million de personnes déplacées dans la province de Lituri, au nord-est de la RDC, afin de mettre en place les conditions nécessaires à un avenir pacifique. Sur cette situation humanitaire, Antoine Roger Bolamba, adjoint à Dakar, le porte-parole régional Afrique de l'Ouest et du Centre du Conseil norvégien pour les réfugiés, Ousmane Drabo.
Alors, en Lituri, en RDC, en République démocratique du Congo, la situation humanitaire est assez alarmante et même catastrophique au regard du nombre de déplacés internes dans la région, les attaques qui se poursuivent contre les camps de déplacés internes, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, de la sécurité alimentaire, tous les voyants sont pratiquement au rouge. Et pendant que la situation humanitaire se dégrade de jour en jour en Lituri, on voit que l'attention est plus portée sur le nord Kivu, ce qui est très juste. Mais nous demandons qu'il y ait aussi un regard très attentionné sur l'Ituri, au même titre que le Nord Kivu à Goma et dans d'autres localités où l'insécurité sévit en République démocratique du Congo.
Et de votre côté, que fait votre organisation par rapport à cette situation?
Le NRC, à l'image de la plupart des acteurs humanitaires dans l'Ituri, essaie d'apporter des réponses aux besoins urgents, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes d'abri. NRC offre des abris aux déplacés internes, par exemple. NRC participe à la construction de points d'eau pour soulager un peu les problèmes d'eau auxquels sont confrontés les déplacés internes. NRC participe aussi à la mise en place de structures éducatives assez solides en formant par exemple des enseignants communautaires pour répondre un peu à l'urgence de l'éducation des enfants qui sont laissés à eux-mêmes suite à différentes attaques. Des écoles sont fermées, aussi vu la précarité, aussi la pauvreté des parents dans cette zone. Beaucoup d'élèves n'arrivent pas à partir à l'école et NRC essaie d'apporter justement des réponses en formant des enseignants communautaires, mais aussi en essayant d'apporter des enseignements psychomoteurs contre les traumatismes que ces enfants des déplacés internes ont pu vivre lors des différentes attaques dans les villages.
Et comment appréciez-vous l'attitude du gouvernement congolais par rapport face à cette situation?
Simplement, ce que nous demandons, que ce soit aux autorités ou à l'endroit de la communauté internationale, c'est d'apporter son aide, que ce soit dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, pour abréger la souffrance des déplacés internes et des populations vulnérables dans ces deux provinces qui sont les plus affectées en matière de conflit, mais aussi en prenant des initiatives pour pouvoir apporter des réponses concrètes en termes de cohésion sociale, en termes de vivre ensemble dans l'Ituri. Comme vous le savez, l'une des causes du conflit dans cette région, c'est que les populations hautes et même les déplacés internes se disputent un peu des ressources qui sont assez limitées dans la région et qui sont source de conflits communautaires. Et donc, nous demandons à la communauté internationale d'apporter des réponses aux besoins urgents, que ce soit en termes d'eau, en termes de nourriture, en termes d'abri, mais aussi à participer aux différentes initiatives locales et qui visent à renforcer le ciment de cohésion sociale et du vivre ensemble entre les communautés dans l'Ituri, mais aussi dans le long Kivu.
Ousmane Rabo, porte-parole régional Afrique de l'Ouest et du Centre du Conseil norvégien pour les réfugiés. Sans transition, page santé avant de nous quitter. La maternité de substitution est une forme de technologie de reproduction assistée qui a permis de résoudre l'infertilité de nombreuses personnes qui ne parvenaient pas à avoir un enfant. Alors que plusieurs pays occidentaux ont légalisé la maternité de substitution dans le cadre de lois strictes, la plupart des pays africains n'ont pas encore de cadre législatif à ce sujet. On en parle dans ce reportage de Collins Adede depuis Mombasa. C'est un récit de John Lyndon.
La maternité de substitution est un processus par lequel une femme porte et met au monde un enfant pour le compte d'un autre couple ou d'une autre personne. Les mères porteuses sont fécondées in vitro. Bien que la plupart des cas restent confidentiels, les statistiques montrent que dans le cas de la maternité des substitutions traditionnelles, le taux de réussite de l'accouchement est d'environ 60%. Le docteur Willy Kikwa, gynécologue à Mombasa, ville côtière du Kenya, explique que la maternité des substitutions gagne en popularité en raison d'une prise de conscience croissante dans la plupart des sociétés africaines.
Nous avons deux types de mères porteuses. La personne qui porte un bébé au nom d'une autre personne est la même que celle qui donne les ovules. Il y a deux façons de procéder. La première consiste à inséminer la femme et la deuxième à faire une fécondation in vitro avec le sperme du donneur pour que la mère porteuse porte le bébé.
Le Kenya fait partie des nombreux pays africains qui ne disposent pas d'une législation claire sur la maternité de substitution. Le docteur Kikwa affirme qu'il n'existe aucune loi qui couvre les techniques de reproduction assistée.
Absolument. Je pense que la législation est en suspens dans de nombreux pays parce que ce n'est pas une priorité. Si vous regardez la classe politique et les gouvernements, ils ne considèrent pas cela comme une priorité. Mais en effet, comme on le dit, pour se considérer comme une personne saine, il faut être sain de corps et d'esprit et même avoir une famille. Il faut donc lui donner la priorité au même titre que d'autres priorités et surtout mettre en place une législation qui protège à la fois la mère porteuse, le donneur et ceux qui pratiquent la gestation pour autrui, de façon à ce que cela se fasse dans un cadre approprié.
Même si une législation claire a été mise en place, la plupart des personnes qui souhaitent essayer la maternité de substitution se heurtent encore à plusieurs obstacles.
La première raison est le coût, parce que c'est un peu cher, donc on comprend que l'absence des moyens financiers porte les gens à éviter de le faire. La deuxième raison est la stigmatisation. Les gens ne veulent pas que l'on sache qu'ils ont eu recours à une mère porteuse. Et la troisième raison est qu'ils ne sont pas au courant de tout cela. Peu de gens comprennent qu'il existe l'insémination artificielle ou la FIV. Il faut les sensibiliser.
La maternité de substitution suscite des réactions mitigées parmi les femmes au Kenya.
Je ne pense pas que ce soit quelque chose nécessairement mis sur la place publique et dont les gens discutent ouvertement. Mais c'est là et c'est en train de se produire. J'ai rencontré quelques personnes ou simplement suivi des discussions sur le fait que oui, il a fait cela et que le bébé est celui-ci, mais qu'elle a accouché pour sa sœur.
La femme qui a porté cette grossesse s'est déjà attachée au bébé alors qu'il était encore dans l'utérus et il devient donc très difficile de le laisser partir. C'est la raison pour laquelle nous entendons parler de tant de cas devant les tribunaux.
Des médecins comme Kikwa mettent en garde contre la prudence qui s'impose à l'heure où le monde entier adopte les nouvelles technologies pour lutter contre l'infertilité. Les lacunes qui peuvent être utilisées par les criminels pour introduire la traite des êtres humains au nom de la maternité de substitution suscite des inquiétudes.
Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza à ce micro. Fatouma Alimaskalala a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et un bon week-end à vous tous. À la prochaine.